En ce 20 mars, à Rencontre spirituelle, c'est une émission spéciale consacrée à la réincarnation. Beaucoup de gens parlent de la réincarnation, et chose étrange, on y croit assez souvent, même de plus en plus. La réincarnation, est-ce qu'on peut vraiment y croire quand on a la foi chrétienne? Est-ce que c'est compatible avec la foi chrétienne? C'est la question que je pose aujourd'hui. Et je ne voudrais pas déplaire à ceux qui croient à la réincarnation, mais je vais quand même aborder la question d'un point de vue chrétien. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. J'ai trouvé un très petit texte intelligent de Daniel Monpetit. Je ne peux pas m'empêcher de vous le lire, c'est très bref. Il résume la question de façon sensationnelle, et je vais le développer par la suite. Il dit que pour les chrétiens, le corps mérite un grand respect. Et comme l'écrit saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, la première, notre corps est le temple de l'Esprit-Saint. Moi, c'est pour ça que j'ai tenu absolument à ce que ma mère et mon fils ne soient pas incinérés avant les funérailles. Je trouve ça inconcevable. Je trouve que leur corps devait, ma mère et mon fils, entrer à l'Église, temple du Saint-Esprit, par respect d'abord pour ce corps qui m'a donné la naissance et pour le corps de mon fils qui m'a donné un petit-fils et qui ont été habités par l'Esprit-Saint. Et le texte continue en disant, en christianisme, le corps n'est pas un vêtement dont on se défait pour en prendre un autre. En effet, la lettre aux Hébreux nous rappelle qu'il est réservé aux personnes de mourir une seule fois. Le corps, dit-il, ce Daniel Monpetit, le corps ne constitue donc pas une facette négative de notre personnalité, ni un élément provisoire pour un certain temps, là. Au contraire, le salut atteint toute la personne jusque dans son corps, et ainsi, après notre mort, nous ressusciterons avec le corps que nous sommes. Mais transformé et glorieux, évidemment. Si nous avons un bouton sur le bout du nez, il n'y en aura plus. Si nous étions infirmes, nous ne serons plus infirmes. Si nous étions, je sais pas, mal fait avec le temps ayant abîmé notre corps, il redeviendra glorieux et splendide. Dans une pensée autre, dit Daniel Monpetit, la réincarnation entrevoit une vision bien différente du corps, et ce dernier apparaît alors comme un ennemi de l'âme, qui doit se libérer de sa carapace. L'âme, il faut qu'elle se libère de sa carapace corporelle pour enfin atteindre la vie divine, puis se dissoudre dans un divin, on n'appelle pas ça vraiment Dieu en général. En définitive, dit Daniel Monpetit, la façon de considérer les choses chez les réincarnationnistes n'est pas conciliable avec la façon de comprendre ce qu'est la résurrection de nos corps, ni avec la conception qu'on trouve dans la Bible du salut et du corps. Il faut choisir, car toute une compréhension de Dieu et de l'être humain est en cause. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Les adeptes de ce qu'on appelle aussi la transmigration des âmes, le mot réincarnation, c'est de formation très récente, et saviez-vous ça, ça date du 19e siècle. Puis entre les réincarnations, les gens qui croient ça disent qu'il peut s'écouler un temps de repos dont la durée varie à l'infini selon les auteurs. Les uns parlent de quelques semaines, d'autres de 1000 ans, d'autres encore de 10 000 ans. Et le nombre de réincarnations varie également. Certains textes hindous risquent des chiffres absolument astronomiques et incompréhensibles. Alors donc, les adeptes de la réincarnation le sont très nombreux dans le monde. Je donne des chiffres approximatifs. Peut-être 600 millions d'hindous. Près de 350 millions de bouddhistes et même davantage pour ces deux chiffres qui partagent cette croyance. Beaucoup de Québécois l'adoptent également. Mais à la différence des hindous, des bouddhistes et des grecs dans l'Antiquité, ceux qui croient à la réincarnation ne pensent pas généralement que leur âme puisse se réincarner dans un corps d'animal. Je me souviens de un petit voisin de mon âge, quand j'avais à peu près 5-6 ans, à Outremont, on avait des paliers qui se rejoignaient, puis il nous avait dit que la famille de ses parents, c'était des Anglais d'Angleterre qui étaient théosophistes, qui croyaient à la réincarnation. Ils disent, nous, on mange pas de viande parce que ma grand-mère est morte et on voudrait pas la manger. C'était très étrange. Je m'avais semblé tellement curieux. On appelait ça dans ce temps-là la métempsychose. Et d'après une enquête menée en 1990 en Occident, il y aurait un peu plus de 20%, dont 23-24% de catholiques, qui croient en la réincarnation. Et cette croyance qu'on pensait réservée simplement à l'Orient, les Indes, la Chine, etc., le Japon, est donc beaucoup plus répandue qu'on ne l'admet généralement. Et ce chiffre est, pour le Québec, d'environ 30%. C'est plus élevé ici. Il semble, pour l'instant, ce chiffre relativement stable. Il y a de nombreux groupes religieux qui professent la réincarnation. Il y a la Fraternité Blanche Universelle. Je me souviens d'une dame catholique qui me disait, il y a 20 ans, combien c'était fantastique, la Fraternité Blanche Universelle, mais pauvre madame. Et l'Association Internationale pour la Conscience de Krishna aussi, ces jeunes, en général, qu'on voit dans la rue, les cheveux rasés, qui chantent, là, cette secte hindouiste. Et l'Église de Scientologie qui fait tellement parler d'elle devant les problèmes légaux, fondée en 1954 par Ron Hubbard. Bien sûr qu'on voit souvent annoncer dans les journaux les Rose-Croix à Mork et l'Association Rosicrucienne de Max Heindel, etc. Ils ont des arguments, puis de bons arguments des fois. Hein? Pardon. Ils disent qu'il y a des inégalités naturelles. Si Mozart, à 5 ans, disent-ils, composait des musiques aussi élaborées, c'est qu'il les avait déjà ébauchées dans des vies antérieures. Et il pose la question, pourquoi un enfant naît-il mongolien alors que son frère jumeau est surdoué? Est-ce que ça peut pas s'expliquer que comme la conséquence des actions accomplies dans des existences antérieures de l'un et de l'autre, là, l'un doit se purifier de ses fautes passées, c'est pour ça qu'il est mongolien, puis l'autre, qui est surdoué, il bénéficie de ce qu'il a bien fait auparavant. Et chaque action produit un jour ou l'autre son résultat, bon ou mauvais. On le sait ça aussi. C'est vrai que si on se conduit mal, jeune, on a des difficultés plus tard. Mais ça peut permettre aussi de se convertir. Eux, ils disent que cette loi cosmique de relation de cause à effet, puis de rétribution, pour ainsi dire, mécanique de nos actes, ça s'appelle le karma. C'est le mot que l'on retrouve dans l'hindouisme. Et l'enseignement de cette doctrine, ben, ça encourage les hommes, les femmes à ne pas céder, ils cèdent pas aussi facilement à leurs penchants mauvais. Par exemple, celui qui est tenté de torturer son ennemi doit penser que s'il cède à la tentation, ben, il risque d'être torturé, c'est sûr, dans une autre vie. Mais c'est donc une croyance, pensent ses adeptes, qui n'enferme pas de façon inéluctable l'être humain dans son passé, mais qui le pousse à se sentir responsable de ses actes. C'est un bon point de vue. Un autre argument invoqué, c'est que la réincarnation offre une possibilité de recommencement. C'est aussi un point de vue intéressant, ça. Un être humain qui n'a pas eu tout son compte de vie, ou qui l'a gâché, doit avoir la possibilité de refaire sa vie dans une autre existence, disent-ils. Un enfant qui est emporté tout jeune là, dans un accident, qui est mort à cause d'une maladie qui est terrible et puis il n'a pas eu le temps de réaliser tout ce qu'il aurait pu faire de bien. Il faut bien qu'il puisse les accomplir dans une autre existence. Par contre, on peut imaginer la quantité de réincarnations ratées des enfants avortés de nos jours et qui risquent fort, en revenant, d'être avortés encore et deux et trois fois de suite. Et quant à ceux qui se sont laissés glisser dans l'alcoolisme, la débauche ou la grande violence, pensons à Pol Pot, à Hitler, etc., Il faut bien qu'il puisse se racheter, ou plutôt se purifier peu à peu, à travers toute une série de réincarnations au cours desquelles ils vont finalement comprendre enfin leurs erreurs, puis vont s'en débarrasser. Ils prétendent, eux, qu'il est impensable, et c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, hein, que Dieu, ça semble invraisemblable que Dieu condamne à des peines éternelles des êtres aussi fragiles que nous, les pauvres hommes, les pauvres femmes. L'existence humaine, d'ailleurs, est si brève, disent-ils. L'homme doit avoir le droit à l'erreur. Il doit bénéficier d'examens de repêchage, comme on dit à l'université ou au collège. La croyance en la réincarnation, disent-ils, permet d'échapper à toute cette perspective épouvantable d'un enfer éternel. Alors les âmes qui ont reçu, ou qui ont vécu plutôt dans le mal, ne connaissent que le purgatoire, puis celui-ci s'accomplit sur Terre au cours d'existences successives. C'est dire que la réincarnation remplace le purgatoire et l'enfer. Dans un cahier Fête et Saison, on trouve cette remarque. L'idée que j'ai pu vivre antérieurement une autre vie dans une plante ou un animal ne me choque pas. L'homme fait partie du cosmos. Nous ne sommes qu'un maillon de la chaîne de la vie, c'est ce qu'ils disent. Il y a aussi l'origine de l'âme des nouveau-nés. Hein. Oh, bon, c'est pas tellement important, mais c'est le premier argument développé il y a plus de 2000 ans par Platon en faveur de l'immortalité de l'âme dans le dialogue du Phédon. Hein. Les âmes des vivants ne peuvent venir que des morts. Les âmes qui s'éveillent viennent forcément, pense-t-il, de celles qui se sont endormies. Il ne vient pas à l'idée de Platon que les âmes des nouveau-nés pourraient peut-être être créées à partir de rien, par une puissance divine, c'est ce que nous croyons, chrétiens. Pour lui, rien ne se perd, rien ne se crée, et le nombre des âmes est fixe et invariable, ça a été décidé depuis toujours. Elle préexiste depuis toujours, à la naissance des nouveau-nés. Platon explique aussi, de cette façon, la présence dans l'intelligence humaine de ces grandes idées éternelles de justice, de beauté et de vérité. Pourquoi? Parce que les âmes, croit-il, les ont contemplées dans une vie céleste, antérieure. C'est pas si bête, au fond, quand on y pense. Il y a un autre argument, c'est l'expérience des comateux, hein, vous savez, les Occidentaux qui croient à la réincarnation, essayer de lui donner une base scientifique. Ils invoquent tout d'abord des phénomènes qui ne peuvent s'expliquer que si nous avons déjà vécu une autre vie. Par exemple, le sentiment du déjà-vu ou du déjà-vécu. Un professeur a l'impression de connaître déjà, mettons, un poème qu'il lit pour la première fois. Mais la capacité qu'ont certains êtres de comprendre ou même de parler des langues qu'ils n'ont pas apprises, prétend-il. On cite surtout aujourd'hui, hein, à cause du docteur Moody puis de ses lèvres, là, que des personnes qui ont plongé dans un coma profond, les comateux, se souviennent de l'expérience étrange qu'ils ont faite. Hein? Alors, sur 100, on dit que 16 ont vu apparaître une grande lumière. 10 ont eu la sensation d'entrer dans cette lumière. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais endormi pour une opération. Je n'étais pas mort. Après leur expérience, quelques-uns de ces comateux sont enclins à croire à la réincarnation. Il y en a un qui dit: je ne conçois plus la mort comme un anéantissement, mais comme une renaissance. Mourir permet de renaître pour connaître une nouvelle vie plus paisible. Ça ressemble dans un sens au christianisme, mais c'est pas le même sens. Eux, c'est pour renaître. Nous, c'est pour vivre avec Dieu. Je reviens donc à la réincarnation et aux réincarnationnistes, pour lesquels j'ai beaucoup de respect parce que leur théorie, même si elle n'est pas, à mon avis, vraiment prouvée. Puis de toute façon, qui se souvient d'une vie passée? Qui profite de son expérience passée? Je n'en connais personne autour de moi, et moi, personnellement, je ne me souviens pas d'avoir déjà existé et de pouvoir profiter de ce que j'aurais pu faire dans une vie précédente, enfin. Bon, passons. Voici quelques passages de la Bible qui servent de preuve aux réincarnationnistes. Les adeptes modernes de la réincarnation y prétendent trouver donc dans les évangiles la justification de leur thèse. On le voit chez Aïvanov, qui est très populaire. Je suis déjà allé assister à une grande réunion d'Aïvanov, qui s'habille de blanc, C'est le maître de la Fraternité Blanche Universelle. Monsieur Aïvanov, qui attaque beaucoup le christianisme et le catholicisme dans ses conférences, voit en effet, dans quelques réflexions pourtant de Jésus et de ses disciples, la preuve que tout le monde y croyait à leur époque, et que Jésus ne conteste pas cette croyance, prétend-il. Quand, par exemple, les apôtres répondent à leur maître Jésus, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes », cela prouverait, c'est ce qu'ils affirment, que certains juifs voyaient en Jésus une réincarnation de l'un de ces trois personnages. Même chose quand les juifs interrogent Jean-Baptiste pour savoir s'il n'est pas Élie. On trouve ça dans le premier chapitre de Jean. Ou bien quand Hérode se demande si Jésus n'est pas Jean-Baptiste ressuscité. C'est ridicule, parce qu'ils avaient le même âge. Ça ne peut pas être de la réincarnation, c'est évident. On s'appuie également sur la réflexion faite par les apôtres. Vous savez, à propos de l'aveugle-né, vous connaissez cette histoire, hein? Les apôtres disent, « Maître, qui a péché, lui, cet aveugle-né, ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » C'est le signe, dit-on, que les disciples de Jésus envisageaient comme une explication possible là, du fait que cet homme était aveugle, une faute contractée avant sa naissance, dans une existence antérieure. Jésus lui-même, prétend-on chez les réincarnationnistes, dit à ses disciples, après la décapitation de Jean-Baptiste, vous savez, il s'est fait trancher la tête, « Élie est déjà venu, ils ne l'ont pas reconnu, et ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. » Et l'évangéliste ajoute, « Alors les disciples comprirent qu'il s'agissait de Jean. » Il y a un curieux personnage, Mgr André Lotte, qui n'est pas catholique, en dépit de son titre. Il est cependant d'une autre église catholique, l'église catholique dite libérale. C'est près d'un ordre assez curieux, l'ordre martiniste. Je vais pas vous expliquer qu'est-ce que c'est, on connaît pas ça à Montréal, je pense. Alors, selon ce Mgr Lotte, la preuve qu'il s'agissait là d'une doctrine secrète de Jésus, c'est que celui-ci ajoute dans un texte parallèle, Matthieu 11, que celui qui a des oreilles entend. Je comprends pas très bien. Même raisonnement chez les Rose-Croix, qui prétendent toujours être les fidèles dépositaires de l'enseignement caché du Christ, qu'on retrouverait, disent-ils, en certaines paroles des évangiles apocryphes. Il faut avoir lu les évangiles apocryphes comme je l'ai fait, pour voir toutes les choses étranges, étranges, étranges qui s'y trouvent. C'est intéressant, mais c'est étrange, voyons. Puis on allègue enfin certains passages des Épîtres de saint Paul. Ne vous y trompez pas, on trouve ça dans l'Épître aux Galates, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car ce qu'on sème, on le récolte. Eux, ils disent que l'apôtre saint Paul affirmerait ici que la loi du karma, selon laquelle l'homme récolte dans une autre vie ce qu'il a sémé dans une existence antérieure, ce qui est loin d'être évident. On récolte en 1997 ce qu'on a semé en 1987, puis en 1995, me semble. La réincarnation, à mon avis, c'est une croyance contraire, dommage, à l'ensemble du mystère chrétien. Je vais vous expliquer ça un peu. Pour rappeler tout d'abord que les certitudes des chrétiens au sujet de l'au-delà sont pas fondées sur des raisonnements philosophiques. Non. Nos certitudes sont pas fondées non plus sur des expériences parapsychologiques. C'est fondé sur une expérience très spéciale de l'au-delà qui a été faite sous Ponce Pilate il y a 2000 ans et qu'on va célébrer dans quelques jours. Expérience qui a été faite par quelques témoins qui nous l'ont rapporté. Ils ont vu de leurs yeux, entendu et même touché Jésus de Nazareth après sa résurrection d'entre les morts. Et cet homme n'était rien de moins que le Fils de Dieu lui-même, venu parmi nous pour nous révéler des vérités définitives sur son Père et sur nous-mêmes, des vérités en totale opposition avec des idées véhiculées par les partisans de la réincarnation. Qu'il suffise de lire l'Évangile d'aujourd'hui, qu'on va célébrer à la messe dans toute l'Église catholique, de rite latin. Et dans Saint Jean, chapitre 8, Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reste fidèle à ma parole, il ne verra jamais la mort. » Les Juifs lui dirent, « Nous voyons bien maintenant que tu es un possédé, Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un reste fidèle à ma parole, jamais il ne connaîtra la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi. Qui donc prétends-tu être? » Jésus répond, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous appelez votre Dieu. Alors que vous ne le connaissez pas, mais moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai un menteur, comme vous. Mais je le connais, et je reste fidèle à sa parole. Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse, dans l'espoir de voir mon jour. Il l'a vu. Il a été dans la joie. Alors les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas 50 ans, tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « Amen. Amen. Je vous l'ai dit, avant qu'Abraham ait existé, moi, je suis. Je suis. » C'est les deux mots, hein, qui s'appliquent uniquement à Dieu. Nous sommes convaincus, nous, chrétiens, que nous sommes tous appelés à ressusciter, comme Jésus. Le corps humain n'est pas une prison dont l'homme doit se libérer au plus tôt, je vous en ai glissé un mot au début, un vêtement quitté au plus vite. Il est appelé à vivre éternellement, le corps. Il est fait pour participer à la béatitude éternelle. Il doit ressusciter, il doit être glorifié. Le Fils de Dieu lui-même s'est uni pour toujours à un corps de chair né de la Vierge Marie. On va en parler la semaine prochaine. L'une des leçons qui se dégage des miracles de l'Évangile est l'unité profonde qui existe chez l'homme entre son corps et son âme. Jésus guérit les malades du corps et de l'esprit. C'est le signe d'une guérison plénière de l'être, plénière, le corps et l'âme. Une guérison qui va plus loin que la remise en état d'une enveloppe charnelle. Le corps dans le christianisme n'est pas une défroque accidentelle. Je répète, le corps, pour les chrétiens, n'est pas une défroque accidentelle. Il n'est pas possible de le séparer de l'âme. Les sacrements, d'ailleurs, utilisent des réalités charnelles. Le pain, le vin, l'eau et l'huile. Ils atteignent en nous le biologique le plus caché. C'est ce que dit l'abbé Pierre Découvement dans son beau livre « Guide des difficultés de la foi catholique » que j'utilise. Les miracles épisodiques de guérison qui jalonnent la vie du Christ nous aident à découvrir une vérité fondamentale. Le corps de chaque être humain est la manifestation visible du miracle permanent que constitue toute vie humaine. Nous sommes des miracles vivants. Nos corps sont des miracles. Une guérison accordée par le Christ répare une souffrance, un accident de la création, mais ne change pas la nature de cette création. Le Christ rend la santé à un homme, il n'a jamais fait d'un homme un ange. Il y a un optimisme chrétien sur le corps, n'oublions jamais ça, qu'on ne retrouve jamais dans les doctrines de la réincarnation. Jamais. Nous, notre optimisme chrétien sur le corps est magnifique et de toute beauté. Et je viens d'insister sur le fait qu'il y a un optimisme chrétien sur le corps, qu'on ne retrouve jamais dans les doctrines de la réincarnation, évidemment, où on change de corps. Si nous ressuscitons dans un corps à cette condition-là, quel corps sera ressuscité? D'autre part, nous sommes tous infiniment aimés. C'est ce que nous croyons. Nos limites, nos handicaps, ne nous empêchent pas d'être infiniment aimés du Père, hein? Jean Vanier nous le rappelle par tout son travail, Mère Teresa aussi, et des milliers d'autres qui s'occupent des handicapés, des malades. Nous savons qu'ils sont infiniment aimés du Père. Il nous a créés à exemplaire unique et nous avons tous une vocation irremplaçable à vivre dans le corps de son Fils, qui est l'Église. Les membres ont des fonctions différentes, mais ils ont tous une valeur infinie à ses yeux, et cette certitude n'est pas fondée sur des impressions, là, mais c'est fondée sur sa parole. Et sa parole, elle proclame une tendresse sans mesure pour chacun de nous, c'est dans le psaume 119. Et n'oublions pas en troisième lieu que nous aurons tous des comptes à rendre. La vie est quelque chose de sérieux et nous avons à nous préparer à notre éternité durant cette vie. Et si nous ratons cette vie, nous n'aurons pas d'examen de repêchage. Nous ne pourrons pas la recommencer. Mais la miséricorde de Dieu aidant, nous ne savons comment tout cela va se passer. Nous ne saurons pas la recommencer en nous réincarnant dans une autre existence. Nous aurons à rendre des comptes sur la façon dont nous aurons laissé l'amour prendre de la place dans notre cœur et dans nos actes. C'est ça, c'est dans Matthieu 25. Avons-nous laissé l'amour prendre de la place dans notre cœur, dans nos actes? Et puis quatrièmement, nous sommes tous en danger de mort éternelle. Il n'est pas impossible que des hommes rejoignent pour toujours les démons en enfer. Je vous en ai déjà parlé. Mais c'est bien difficile à comprendre. Jésus nous met souvent en garde contre ce terrible danger. Et si ce danger est illusoire, serait-ce que Jésus est un menteur? Est-ce que Jésus est un maître chanteur quand il parle de ça? Ou ce sont des inventions des évangélistes qui ont débordé de l'inspiration de l'Esprit-Saint et sont allés de l'autre côté, dans le monde de l'imagination pure? L'Église a toujours réagi contre les chrétiens qui ne prenaient pas au sérieux les paroles de l'Évangile sur cet enfer éternel qui demeure une chose bien difficile à comprendre. Pour le chrétien, l'existence humaine est dramatique. Rappelons-nous ça, puisqu'il dépend de lui de réussir ou de rater sa vie. Mais on ne sait pas comment Dieu juge les gens. Nous ne savons pas. Mais nous qui avons la foi, nous qui avons compris des choses, nous qui connaissons des choses, nous sommes peut-être beaucoup plus responsables que bien d'autres, hein? Il me semble. Mais loin d'être traumatisante, la pensée de l'enfer met dans le cœur de chacun d'entre nous, des chrétiens, une très grande confiance en Dieu. Je vous en ai parlé hier pendant une heure en parlant de Saint Joseph. Plus il se défie de lui-même, le chrétien, plus il se remet dans les bras de son Sauveur. Plus il se jette avec son Sauveur dans les bras du Père, dans l'amour de l'Esprit-Saint, dans ce Dieu trine, plein de miséricorde et d'amour. Car Jésus, notre Sauveur, est seul capable de nous guérir du mal de l'orgueil profondément incrusté dans notre cœur de pécheur. Celui qui ne se défie pas de lui-même, il ne peut pas dire qu'il met toute sa confiance en Dieu. Il se confie surtout dans sa bonne volonté à lui et ça ne marche pas, ça. Il faut se confier à Dieu. Et cinquièmement, nous pourrons tous, si besoin est, bénéficier du purgatoire. On peut dire ça, hein? Le chrétien pense aussi que pour atteindre Dieu définitivement, ben il faut être pur, puis il croit lui aussi à l'existence d'une purification, mais c'est l'existence du purgatoire, c'est l'un des dogmes chrétiens. Il y a des déclarations doctrinales là-dessus, puis Lumen Gentium au dernier conseil nous l'a rappelé. C'est un dogme. Nous savons peu de choses sur cette purification, mais nous savons qu'elle ne se réalise pas au cours de réincarnations successives. Elle s'accomplit en dehors du temps, dans le monde de l'éternité qui nous est incompréhensible. C'est Sainte Catherine de Gênes. Elle est morte en 1510, Sainte Catherine de Gênes, dans le nord de l'Italie, là. Elle a écrit un traité du purgatoire qui fait entrevoir l'élan avec lequel l'âme se précipite, je dis bien se précipite dans cette fournaise d'amour pour s'y purifier. C'est pas Dieu qui la jette là. C'est l'âme qui comprend qu'elle a besoin de se purifier. Elle écrit, « Dieu est toute miséricorde et ses bras sont toujours ouverts pour nous recevoir dans la gloire. » Mais la divine essence, Dieu quoi, est si pure, infiniment plus pure que l'imagination ne peut la concevoir, que l'âme, trouvant en elle-même la plus légère imperfection, se jetterait d'elle-même dans un millier d'enfers plutôt que de paraître souillée en présence de la divine majesté. Et sachant alors que le purgatoire est institué pour la purifier, elle s'y précipite d'elle-même et y trouve cette grande miséricorde, la destruction de ses fautes. Toujours est-il que pour la pensée chrétienne, la purification à laquelle l'homme et la femme doivent parvenir pour entrer définitivement dans l'intimité de Dieu, c'est pas le résultat d'efforts accomplis laborieusement au cours de réincarnations successives, non, non. Elle est toujours un don, c'est un don absolument gratuit de Dieu lui-même à condition qu'on s'offre. Qu'on dit « Esprit Saint, prends-moi ». Prends-moi. Et on reçoit ce don. Dieu se plaît souvent à faire éclater sa miséricorde en guérissant profondément en quelques secondes un grand pécheur. Et c'est l'histoire exemplaire du bon larron sur la croix. On va pas parler de ça, là, le vendredi saint. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est ce que Jésus lui dit d'un bandit, un voleur, qui meurt crucifié. Il devait avoir commis quelque chose de grave. Si l'homme ne se laisse pas suffisamment purifier sur terre, ben il devra se laisser façonner dans le purgatoire, un vrai cœur d'enfant, capable d'accueillir l'étreinte définitive de Dieu. C'est notre conception. De toute façon, de l'avis de Pierre Descouvemont dans son ouvrage, je vous le rappelle, « Guide des difficultés de la foi catholique », les arguments à invoquer ne sont pas décisifs chez les réincarnationnistes. Je reprends chacun des arguments invoqués plus haut tout à l'heure là, par les partisans de la réincarnation. Ça vous avait peut-être converti à la réincarnation sans que je le veuille. Je vais leur répondre à la lumière de l'ensemble du mystère chrétien, mais je ne veux pas les blesser. Non, non. C'est pas une discussion que je veux avoir. C'est pas des coups de massue. C'est un exposé de ce que nous pensons, tout simplement. Dans un dialogue, malheureusement, qui est un monologue. Ça ne sera donc pas une réponse philosophique que je veux faire. Un éclairage théologique. Ça risque, évidemment, de ne pas convaincre les gens qui sont réincarnationnistes et qui n'ont pas la foi catholique. Mais ceux qui ont la foi catholique, j'espère qu'ils seront convaincus. Tout d'abord, le handicap de quelqu'un, c'est pas un châtiment, hein. Les inégalités naturelles. Ça peut s'expliquer autrement que comme une conséquence de cette fameuse loi du karma qui fait que les gens sont obligés de se réincarner. Non, non. Les êtres moins favorisés à la naissance semblent à première vue victimes d'une injustice. Leur handicap peut paraître dans un premier temps comme la punition de quelques fautes commises antérieurement. Puis il y a même des parents qui disent que ce que j'ai fait au bon Dieu pour mettre un enfant au monde comme ça, pourquoi, Seigneur, m'envoies-tu un enfant mongolien? Mais par contre, ceux qui ont le courage, la force psychologique, la foi, et qui gardent leur enfant, c'est très dur, mais ils s'épanouissent s'ils sont aidés par nous, les chrétiens autour d'eux, pour garder l'enfant à l'occasion, pour les aider, les secourir, leur donner du temps. Mais la Bible nous invite à dépasser cette première impression de révolte un peu. Les voies de Dieu ne sont pas celles des hommes, il le dit, c'est dans Isaïe. Des personnes handicapées, qui sont privées de santé, de talent intellectuel ou même manuel, peuvent être douées d'un cœur extraordinairement aimant. Mon fils était comme ça. Et par voie de conséquence, réussir leur vie de façon magnifique, ce que mon fils n'a pas réussi. Il suffit de penser à la richesse intérieure qu'elle possède souvent, ces gens, ces personnes-là. Après avoir déjà perdu l'usage de ses membres inférieurs, un enfant de 6 ans devenu aveugle entend sa mère pleurer auprès de son lit, puis il lui dit « Pourquoi pleures-tu, maman? J'ai encore un cœur pour aimer ma maman. » Puis il est mort quelques jours plus tard. Est-ce qu'il n'était pas prêt à partir pour son éternité? Son cœur avait atteint sa taille adulte, une maturité que n'ont, bien, rarement, des gens à un âge plus avancé. Je pense à mon fils qui venait de finir sa 5e année, primaire, à 39 ans. Qui écrivait à son fils, je vous l'ai déjà dit, hein, le plus beau cadeau dans la vie, c'est d'aimer Dieu. Il avait tout compris. Ensuite, le croyant sait qu'un instant de vrai repentir peut tout réparer, hein, la conception biblique du temps. C'est peut-être difficile à comprendre, mais en tout cas, ça permet de répondre parfaitement à la seconde objection la plus insidieuse de toutes. Hein, c'est vrai, il y a des jeunes qui sont trop tôt fauchés par la mort, qu'on pense à tous les Mozart assassinés par des avortements. Ne doivent-ils pas jouir d'une autre vie pour réaliser tout ce qu'ils auraient pu faire? Et ceux qui ne comprennent que sur le tard, à la toute dernière extrémité, qu'ils ont fait fausse route, là, ils sont rendus à 65 ans, puis ils se réveillent. Dieu ne va-t-il pas leur accorder la possibilité de réparer dans une autre existence toutes les erreurs, toutes les bêtises de leur vie, puisqu'ils meurent en quelques jours, puis ils n'ont pas eu le temps? C'est oublier que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour, hein? C'est dans la deuxième épître de Saint Pierre. Le Dieu de la Bible, il aime parfois se jouer du temps lorsqu'il s'agit de guérir ses enfants. On parle de guérison instantanée dans leur corps, ou de compréhension foudroyante dans leur cœur. On voit ça de nos jours. Hein. C'est l'histoire d'ailleurs du bon larron dont je vous ai parlé tout à l'heure, et dans les dernières secondes de son existence, il a réparé toutes les déviances de sa vie, ce bon larron. Je vous en parlerai un jour, Saint Dimas. Hein. Bien mieux, nous pouvons penser que le plus bel acte de notre pèlerinage sur terre s'accomplit à l'instant de notre mort. Lorsque nous entrons dans notre éternité, c'est alors que nous disons définitivement oui ou non à la vérité, oui ou non à l'amour, oui ou non à Dieu. Et cet acte est préparé par tous les actes libres de notre vie, tous les jours, tous ces actes. Mais il est plus important que ce dernier acte. Il les résume, il les reprend. Il en fait un bouquet définitif. Or, quand je pense à certaines religieuses préparées à la mort de façon fantastique et qui meurent dans un état... Oh, c'est absolument bouleversant. Et aussi des laïcs. Mais c'est peut-être plus difficile. Peut-être plus difficile. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de laïcs qui meurent, comme on dit dans ce langage dépassé, les gens comprennent plus ce qu'on veut dire quand on dit ça, en odeur de sainteté, c'est-à-dire comme s'il y avait un parfum de l'âme qui se répand. Mais c'est une image. C'est ainsi qu'un homme qui se suicide peut aller directement au paradis. Hein? Vous savez ça? Hein? Au-delà de son acte de désespoir, il y a la décision ultime de sa vie. Décision dont les survivants ne connaissent rien. C'est le curé d'Ars qui disait à une dame, « Ne vous en faites pas, quand votre fils s'est jeté en bas du pont pour mourir, il a regretté sa faute entre le pont et l'eau. » Alors, à corps nouveau, une âme nouvelle? La prodigalité de Dieu est infinie. Il ne cesse de créer de nouveaux êtres. Il crée. À la différence des philosophes grecs, les chrétiens croient que Dieu crée à chaque instant de nouvelles âmes pour animer les corps qui viennent d'être conçus. Même ces fameux clones dont on pense et qui risquent d'être faits bientôt. Bon, je lisais des articles dans le magazine Time. C'est terrifiant de lire ça. Le Dieu vivant est une source inépuisable de vie. Il tient l'univers contre son cœur. Il ne cesse de faire sortir du néant des âmes qui n'existaient pas à la seconde précédente. Même des âmes de bêtes et de bestioles. Hein? Oui, oui, il y a des âmes, mais elles ne sont pas éternelles. Il crée des âmes humaines éternelles. Mais il y a un hiatus énorme entre l'âme d'un cheval puis d'un chimpanzé puis l'âme d'un être humain. Seule, je vous le répète, l'âme de l'homme et de la femme est immortelle, appelée à entrer pour toujours dans l'union trinitaire. Le premier récit de la Genèse affirme avec force la différence entre la création des premiers êtres vivants et la création de l'homme et de la femme à l'image et à la ressemblance du Créateur. Et même affirmation dans le second récit, où l'homme n'est pas satisfait par la présence des animaux à ses côtés. Cela n'empêche pas le chrétien de se sentir solidaire de tout le cosmos. Je voudrais vous dire quelque chose de très important sur les comatus, c'est-à-dire ceux qui seraient passés à travers la mort et qui seraient revenus. Ils ne reviennent pas du royaume des morts. Mais non. Je vous ai dit tout à l'heure, moi en 1975, j'ai été opéré au Royal Victoria, et puis on m'a endormi. Je ne connaissais rien de ces histoires de tunnels. J'ai passé à travers ce tunnel, mais je ne suis pas mort. Il ne m'est rien arrivé de ce genre. C'est simplement l'effet de me faire endormir, quoi. L'expérience des personnes qui reviennent de loin après avoir été plongées dans un profond coma, ne prouvent absolument rien, puisque par définition, elles n'ont pas franchi les portes de la mort. Autrement, elles seraient mortes. Les chrétiens accordent infiniment plus d'importance au témoignage des 12 apôtres, qui ont fait l'expérience unique au monde de celui, Jésus, qui est revenu d'entre les morts, après avoir été enseveli. Nous revenons au paradoxe de la foi chrétienne, fondé sur un événement, l'événement central de l'histoire de l'humanité, qui s'est réalisé dans l'histoire, et non sur une réflexion purement rationnelle à partir de la condition humaine, ou sur l'impression psychologique du déjà-vu que peuvent éprouver certaines personnes, ou sur l'expérience des comateux, des gens qui disent qu'ils sont morts. Rappelons, par ailleurs, que les découvertes récentes de la génétique ne confirment en rien les prétentions scientifiques de la croyance en la réincarnation. Le code génétique de chaque individu est absolument unique. Il ne pourra jamais se reproduire dans l'avenir de l'humanité. Et la croyance en la réincarnation méconnaît cette union profonde entre le corps et l'âme, et ne peut se maintenir qu'en affirmant l'existence d'un corps astral distinct du corps physique livré à notre observation. Et tout ça est bien compliqué. Je ne veux pas convaincre les réincarnationnistes, je veux simplement exposer notre point de vue finalement. Aucun passage de la Bible ne prouve la réincarnation. Pour comprendre les textes évangéliques allégués plus haut, vous savez, il y a une demi-heure, en faveur de la réincarnation, il suffit de se rappeler que dans la Bible, un personnage peut être amené à assumer le rôle de quelqu'un qui l'a précédé. Un enfant qui joue très bien, on va dire, c'est un vrai petit Mozart. C'est ainsi qu'Élisée a été un autre Élie, de la même, et c'était le disciple d'Élie, de la même manière, on attendait comme précurseur du Messie un nouvel Élie. Et de fait, l'ange annonce à Zacharie, vous savez ça, que son fils marcherait devant Dieu avec l'esprit puis la puissance d'Élie. C'est dans Luc au chapitre 1. Cette continuité dans la mission, ça implique absolument pas l'identité entre les deux êtres, Élie puis Jean-Baptiste, pas du tout. À plus forte raison, Jésus ne pouvait-il pas être une réincarnation de Saint Jean-Baptiste, je vous l'ai dit tout à l'heure, puisqu'il vivait à la même époque. Mais un homme superstitieux comme Hérode pouvait voir dans la puissance surnaturelle que semblait posséder Jésus de Nazareth comme un prolongement de la puissance dont jouissait déjà le Saint Jean-Baptiste. Jamais nous ne voyons Jésus ou ses disciples qui profèrent une parole qui se rapproche tant soit peu de la croyance en la réincarnation, mais pas du tout. Bon, nous avons vérifié ensemble combien les certitudes du chrétien au sujet de l'au-delà ne sont pas fondées sur des expériences psychologiques ou parapsychologiques, ça je vous l'ai dit. C'est fondé sur quoi? Je vous le rappelle, sur la rencontre unique au monde faite par les disciples de Jésus le jour de Pâques. Et dans les quelques semaines suivantes, ils l'ont vu, ils l'ont touché, ressuscité. C'est un paradoxe de la foi chrétienne qui est lié au mystère même de l'incarnation. Quand le Fils de Dieu est venu sur terre, il s'est passé des faits exceptionnels, des événements fondateurs, auxquels, dans la suite des siècles, les chrétiens, nos ancêtres, et nous devrons toujours nous référer pour asseoir notre foi. Mais nous avons vu aussi l'importance d'une réflexion théologique pour la défense de cette foi face à toutes les contestations actuelles ou même passées. On comprend mieux que l'Église se soit toujours opposée là, aux adeptes de la réincarnation quand on a bien saisi que cette doctrine est en totale contradiction avec l'Évangile. C'est très important. On ne peut nier que cette croyance se fait une haute conception de Dieu dans un sens, puisqu'elle estime nécessaire un grand nombre de réincarnations successives pour que l'âme soit digne d'entrer en contact avec lui. C'est touchant tout ça. Mais l'idée qu'elle s'en fait n'est pas celle que Jésus est venu nous révéler. C'est ça le problème. Et tout en croyant, eux aussi, qu'il faut être parfaitement pur pour entrer définitivement dans la gloire et la joie de Dieu, nous, chrétiens, nous pensons que cette purification est à recevoir ici-bas puis aussi dans l'au-delà, comme une grâce, c'est un don. L'entrée dans le paradis n'est pas le résultat d'une œuvre laborieuse, là, qui s'étale sur plusieurs siècles avec des réincarnations. Non, non. L'entrée dans le paradis, c'est un don purement gratuit, à accueillir comme tel. Et l'on n'y entre que pour chanter éternellement la miséricorde inouïe du Seigneur, capable de transformer en un instant les cœurs les plus endurcis. Car le Père des miséricordes est aussi le roi des siècles, maître des temps et de l'histoire, qui se plaît parfois à précipiter les événements. Puis, de penser au miracle, et pour sauver ses enfants, le Dieu de la Bible ne craint pas de hâter quand il le juge nécessaire le moment de leur faire grâce. Il nous appelle sans cesse, Dieu. Il crie au fond de notre cœur. Son amour nous gruge le fond du cœur, nous fait signe, et dans ses seins, il nous montre la voie, et dans le cheminement de Jésus, il nous montre ce que c'est, car il est Dieu en Jésus. Il suffit de dire oui à son amour, c'est tout. Il suffit de crier sans cesse, au fond de notre cœur, que nous soyons dans la rue, au volant de notre voiture, ou en faire la cuisine, de dire tout simplement, « Esprit Saint, prends-moi. Esprit Saint, prends-moi, prends-moi. » La première oraison à la messe est très belle. Sois attentif à nos supplications, Seigneur notre Père. Veille sur nous et protège-nous, car nous mettons notre espoir en ta miséricorde. Purifiés désormais de nos péchés, nous pourrons mener une vie sainte et entrer en possession de ton héritage. Nous te le demandons par Jésus notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Et je ne saurais terminer sans vous lire cette belle prière. Priez-la avec moi, cette brève prière de saint Ignace de Loyola. « Prends et reçois, Seigneur, toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai et que je possède, tu me l'as donné. À toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi. Dispose-en selon ta volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce. Cela me suffit. Oui, cela me suffit. »